Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Diffusée tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 16h30.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre émission Ça nous parle. Moi c'est Loane et je suis accompagnée sur le plateau de Radio Campus de INSA. Bonjour INSA.
Salut.
INSA qui va s'occuper de l'interview aujourd'hui. Je suis aussi accompagnée d'Esteban. Bonjour Esteban.
Bonjour Loane.
Et donc Esteban qui est notre technicien pour l'émission d'aujourd'hui et notre chroniqueur. On est tous les trois étudiants et on a décidé d'évoquer avec vous des thématiques qui nous concernent. Au programme de cette première émission, on accueillera notre premier invité, Enzo, avec qui on parlera d'orientation. Ensuite, ce sera Esteban qui prendra les rênes et qui va nous parler du concept de méritocratie. Puis on pourra parler du transfuge de classe avec ma chronique.
Et oui, qui de mieux pour parler des étudiants que des étudiants finalement ?
D'ailleurs, cette émission ne part pas de zéro, INSA, et tu vas nous en parler un peu plus ?
Ouais, alors en effet, tout est parti du podcast étudiant que j'ai monté durant ma deuxième année d'études, et je le gérais seul avant, et quand j'ai rencontré Esteban et Loane, on a décidé de l'adapter et d'en faire une émission produite par Radio Campus Angers.
Et on est tous les trois très contents d'inaugurer notre première émission avec vous, chers auditeurs. Sans plus attendre, on a accueilli Enzo sur le plateau. Bonjour Enzo.
Bonjour à vous.
INSA, t'avais quelques questions à poser à Enzo ?
Ouais, merci Enzo d'être là.
Merci à vous.
Ça va ?
Très bien, très bien.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire un petit peu ?
Ouais, j'étais à l'école primaire publique et ensuite j'ai fait quelque chose d'assez classique, le collège en public aussi. Et ensuite, là, aujourd'hui, je suis donc en licence information communication depuis 3 ans, et cette fois-ci dans le privé. Et voilà.
Ok, donc en quoi ça consiste aujourd'hui ta licence ?
Alors, on commence en fait par voir un peu les bases du marketing, de la communication, qu'elle soit digitale ou en événementiel, etc. Et ensuite, petit à petit, on peut... notamment avec les mineurs, se spécialiser dans des domaines qui nous intéressent plus en termes de communication.
T'es en troisième année, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Et ça te plaît ?
Alors, on va dire que les cours me plaisent, mais pour le coup, concernant les débouchés, je pense que la communication, c'est pas forcément un domaine qui m'intéresse. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près un an, mais j'ai décidé de poursuivre tout simplement pour avoir en fait mon diplôme à la fin, donc obtenir mon diplôme, donc la licence, et pour ensuite, après, pouvoir peut-être me réorienter vers quelque chose qui me plaira plus.
Ok. Et peut-être, est-ce que tu fais des trucs à côté, en parallèle de ta licence, vu que tu ne trouves pas trop d'intérêt là-dedans pour le moment ? Enfin, est-ce que tu cherches à te développer un peu à côté ou pas ?
Tout à fait. Moi, à côté des cours, je fais partie de l'association AFEV. Donc, ça me permet de faire du tutorat avec un jeune qui est en difficulté. J'interviens dans le quartier de Montplaisir à Angers. Et donc c'est aux alentours de 2 heures par semaine. Et ça, je sais que ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a l'aspect solidaire et aide que j'aime beaucoup. Et puis aussi, c'est avec un jeune, donc c'est très plaisant. Et puis à côté de ça, j'ai ma passion pour la musique, donc je joue du piano, je fais un peu de guitare. Enfin voilà, on essaie de trouver d'autres intérêts ailleurs.
T'as des projets peut-être justement liés à la musique qui arriveront, ou c'est pour le plaisir que tu fais ça pour le moment ?
Pour le moment, c'est vraiment avec plaisir. J'ai du mal justement à savoir comment mettre ça plus loin, c'est-à-dire voir quel projet je pourrais mettre en place. Mais après, moi, je sais que je produis un peu aussi sur ordinateur, donc je fais un peu de prod, etc. Je me dis, si jamais j'ai les moyens d'investir un peu plus, peut-être que je pourrais faire des placements au départ pour des petits rappeurs, etc. Et puis peut-être après grossir un peu, mais ça, c'est vraiment de l'ordre de la passion plus que de l'ambition pure et dure, quoi.
Et qu'est-ce que tu veux faire après la licence ?
Alors après la licence, moi une fois que j'ai mon diplôme, je vais m'autoriser une année donc d'arrêt d'études. Pas une année de césure parce que l'année de césure ça impliquait de faire un choix dans l'école du coup après justement l'année de pause. Et comme je sais toujours pas vraiment quoi faire, j'ai préféré justement faire un arrêt d'études et puis après justement profiter de cette année pour découvrir plein de choses différentes, que ce soit aux alentours de voyages, que ce soit des rencontres ou des projets comme par exemple le service civique, où je me dis du coup je vais pouvoir peut-être découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas ensuite me réorienter. Donc voilà ce qui est prévu pour après ma licence.
Ça a l'air pas mal, donc t'as déjà un peu une idée de rythme, de couleur en fait que va prendre cet arrêt d'études en fait, t'as déjà des pistes ?
J'ai un peu de pistes, ouais. J'aimerais bien cumuler justement une partie voyage, donc vraiment là un peu développement personnel, c'est-à-dire vraiment basé que sur moi et pas trop sur le projet professionnel. Et puis après à côté, trouver quand même des temps pour faire du coup des services civiques et donc découvrir des milieux plus professionnels, plus encadrés, etc. Où là du coup ça implique d'autres personnes dans mon projet.
Tu parlais des jeunes tout à l'heure ? Comme quoi t'intervenais aussi auprès des jeunes, c'est un truc que tu pourrais aussi poursuivre ça par exemple ?
Ouais, pourquoi pas. Je sais que l'association FF ça me plaît beaucoup. Je sais qu'il y a des services civiques aussi, il y a une catégorie qui est assez large qui s'appelle, je crois c'est l'éducation pour tous. Je me dis que ça peut être pas mal de me diriger vers là-bas, surtout que moi j'ai fait récemment une petite expérience dans un centre de loisirs qui m'a pas mal plu. Et donc, pourquoi pas étendre ça donc avec des jeunes et voir si ça me plaît. Et pourquoi pas donc ensuite me diriger vers peut-être une orientation de l'éducation ou quelque chose comme ça.
Et donc, t'as pas mal de pistes en fait déjà là.
Ouais, ça va.
Et donc en fait, cet arrêt d'études, on peut aussi penser que c'est un choix peut-être difficile à assumer. Surtout en fin d'année de licence, on peut te pousser souvent à continuer les études, etc. C'est quoi le regard de tes proches par exemple sur ce choix-là ?
Pour le coup, le regard de mes proches, ça va. C'est-à-dire qu'on m'a toujours soutenu dans ce que je voulais faire. Voilà, là, le doute est accepté par ma famille. C'est-à-dire qu'on m'a jamais obligé à poursuivre mes études si je le sentais pas. Et j'ai le soutien donc de mes parents, de mes amis. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de soucis. La pression va peut-être être plus du côté, notamment de l'école elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, on a des cours de PPE, donc c'est des cours pour savoir ce qu'on fera justement l'année après la licence. Et c'est vrai que on parle très peu du fait qu'on peut éventuellement arrêter ses études et éventuellement faire une année de césure, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais ça se gère.
Et j'allais y venir justement avec une question, notamment est-ce que tu ressentais une forme de pression au niveau de l'école ? Parce que du coup, la fac c'est une fac privée, ça t'en a parlé tout à l'heure. Pourquoi ce choix ?
Alors, ce choix, en fait, c'est plus un choix logistique qu'un choix vraiment, on va dire, du cœur. C'est-à-dire que moi, je voulais faire Infocom parce que déjà, quand j'étais au lycée, j'avais déjà ce petit doute sur ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, je vais faire une licence qui est quand même assez large. Je sais que j'avais la possibilité d'étudier les lettres, de pouvoir voir. Je sais que moi, la publicité, ça m'intéressait à l'époque, donc je me suis dit, bon, Infocom, ça a l'air d'être pas mal. Le truc, c'est que c'était proposé sur Angers que dans des écoles, privées. Et donc, si je voulais le faire ailleurs, il fallait donc que je déménage. Et donc, j'ai fait le choix du privé parce que ça me revient en fait moins cher, tout simplement, de plutôt payer une école privée que d'habiter ailleurs pour un établissement public. Donc, voilà pourquoi ce choix.
Et pourtant, tu avais dit que toutes tes études, tu les avais pas fait dans le privé avant. Donc est-ce que même en passant le cap, t'as ressenti par exemple une petite différence dans l'esprit de l'école par exemple ?
Sincèrement, pas tant en fait. Le fait que ce soit privé, moi je m'en rends pas trop compte, si ce n'est en fait sur le travail lui-même, c'est-à-dire qu'on est à mon avis plus accompagné que dans des établissements publics. On a des travaux réguliers à rendre, on a un suivi qui est assez personnalisé quand même. Donc ça c'est une chance. Après moi du coup je connais pas la fac publique, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc je fais vraiment à partir des retours que j'ai de mes amis par exemple qui sont eux en fac publique.
Ouais, et ça a un coût non négligeable quand même, le privé. Pour certaines familles parfois ça représente un sacrifice. Est-ce que tu dirais que dans ta promo il y a une forme d'équité face à ce privilège ?
Dans ma promo en fait je pense qu'il y a la chance en fait d'avoir le droit aux bourses. C'est-à-dire que selon les échelons de chacun, eh ben on a quand même la possibilité de payer une partie, voire la totalité de ses études, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, je peux pas dire pour tout le monde, certainement qu'il y en a qui ont dû faire des prêts. Je connais aussi des étudiants qui ont dû qu'on a dû commencer du coup la vie avec une dette de 25 000 euros parce qu'il y avait 3 années à financer. Donc je pense que ouais, ça dépend vachement de chacun.
Cet épisode, il est aussi consacré à la transfuge de classe dans le milieu des études, donc un peu de l'influence des parents. Tout à l'heure, Loane, elle reviendra un peu sur ça. Est-ce que toi, tes parents, ils ont fait des études ?
Alors, moi, ma mère, elle a fait un BTS dans le... Je crois que c'était pour être hôtesse d'accueil ou quelque chose comme ça. Donc, c'était pas des... Comment dire ? Des études, comme on dit, intellectuelles. Mais voilà, elle a quand même eu un BTS. Et moi, mon père, il a été formé pour travailler la métallurgie. Donc, ils n'ont pas fait de grandes études. Mais pour autant, quand je leur ai dit que je voulais aller à l'UQO, ils ont suivi. Donc, il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça.
Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, du coup ? Ils ont suivi leurs études et ils exercent dans ça, dans le domaine qu'ils ont étudié ?
Alors, ma mère, pas tant. Moi, ma mère, elle a fait plein de choses différentes parce que je pense qu'à cela, c'est donc du coup, elle essaie d'autres choses. Et donc, voilà. En fait, aujourd'hui, le diplôme qu'elle a, je pense qu'il lui est pas forcément nécessaire. En revanche, pour mon père, ouais, il est toujours resté dans ce travail, du coup, manuel. Et donc, il poursuit et voilà.
Et ça se passe bien. Ok. Est-ce que tu crois qu'il existe aussi une forme de pression à faire et surtout à aller au bout de ses études supérieures de la part des parents en général ?
Certainement, je pense qu'il y en a une. Après, moi, comme j'ai dit, je ne l'ai pas ressenti. Mais certainement que j'en parle avec des gens que je connais. Je sais que, par exemple, moi, ce que je fais l'an prochain, je pense que clairement, tout le monde ne pourrait pas le faire. Il y a une pression de... il faut un avenir, il faut une ambition... assez haute et donc il faut assurer le coup et ne pas s'arrêter en L3 quoi. Donc, mais ça dépend je pense de beaucoup de familles, du cadre. Voilà, moi je pense que le fait d'avoir eu des parents qui n'ont pas fait de grandes études m'a permis justement de se dire bon bah écoute fais ce qui te plaît quoi. Et
de te soutenir dans ce projet.
Ouais c'est ça exactement. Ouais.
Et puis, on le verra un peu plus tard, mais Macron a beaucoup parlé de méritocratie, donc une hiérarchie sociale fondée sur le mérite individuel. Donc, si tu réussis, c'est cool pour toi, c'est que tu t'es donné les moyens, en gros. Est-ce que ça, c'est réel pour toi aujourd'hui ? Ça, tu le vois ou pas ?
Franchement, moi, je pense pas. C'est-à-dire que, en fait, on peut penser qu'on a la liberté de choisir de grandes ambitions, etc. Mais selon moi, selon le milieu dans lequel on est né, dans lequel on a évolué, etc., on n'a pas tous forcément les mêmes chances dans le sens où est-ce qu'on aura tous, par exemple, l'idée de devenir cadre ? Est-ce qu'on aura tous l'idée de faire de grandes études si on vient de tel ou tel milieu ? Je suis pas certain. Donc non, je pense qu'il y a quand même une sorte de plafond de verre un peu qui empêche justement d'avoir une diversification dans plein de milieux, dans plein de domaines professionnels différents, quoi.
C'est intéressant, je te remercie. On va creuser un peu plus ce sujet. Loane, je crois que tu avais des chroniques justement par rapport à ça.
Eh bien, je vais te remercier Enzo d'avoir répondu à nos questions. Et effectivement, Esteban a une chronique pour nous sur la méritocratie.
Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers.
Donc Esteban, selon toi, la méritocratie n'existe pas ?
Et oui Loane, aujourd'hui nous nous embarquons dans l'univers complexe des choix d'orientation post-bac en France. Savoir ce qu'on fait après le bac, c'est pas facile, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le veuille ou non, nos choix sont conditionnés par notre milieu social. Au-delà des simples formulaires, explorons les réalités chiffrées, parfois négligées. Bienvenue dans ma chronique. Pour ceux qui croiraient encore un peu à la méritocratie, écoutez bien les chiffres de l'OCDE. En effet, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, seuls 20% des élèves issus des milieux socio-économiques modestes, donc ceux qui font partie des 20% les plus pauvres, accèdent à l'enseignement supérieur. Tandis que ce chiffre atteint 80% pour les enfants de cadre. Ces disparités sociologiques s'infiltrent dans le choix des établissements. Les familles aisées sont plus enclines à envoyer leurs enfants dans des écoles privées, et il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Tout d'abord, le choix d'une éducation privée est souvent lié à la recherche de la qualité de l'enseignement. Les établissements privés sont souvent perçus comme offrant des ressources académiques supérieures, des programmes plus spécialisés et des infrastructures mieux entretenues. Pour les familles aisées, l'investissement dans une éducation de haute qualité devient une priorité, avec la conviction que cela ouvrira des opportunités futures pour leurs enfants. Un autre facteur clé réside dans la recherche d'un réseau social et professionnel. Les écoles privées, souvent fréquentées par d'autres familles aisées, peuvent faciliter la création de liens sociaux et de réseaux qui perdureront dans la vie professionnelle. C'est le fameux entre-soi de Bourdieu. L'accès à ces cercles sociaux sélectifs peut être perçu comme un avantage pour le développement futur des opportunités professionnelles. Enfin, la quête de prestige et de statut social est également une dimension à prendre en compte. Les établissements privés sont souvent associés à une certaine élite éducative et le choix d'y inscrire ses enfants peut être motivé par le désir de voir la famille associée à cette image de réussite sociale. Cet entre-soi élitiste est souvent celui que l'on peut retrouver dans les écoles de commerce.
Et donc, il n'y a pas que les origines sociales qui déterminent le choix des études ?
En effet, Loan, les stéréotypes de genre continuent d'exercer une influence significative sur les choix d'orientation. Si on est une fille ou un garçon, bah, ça change tout. Vous le savez déjà, mais dernièrement, l'INSEE nous l'a réaffirmé, les filles demeurent sous-représentées dans les filières scientifiques. Et ça, malgré des résultats équivalents à leurs homologues masculins. Plusieurs facteurs sont la cause de ces constructions sociologiques de genre. Tout d'abord, le contexte familial. Il joue un rôle crucial. Les attentes parentales, même souvent inconscientes, peuvent influencer les choix d'orientation des jeunes. Mais il n'y a pas que les parents. L'école aussi va très certainement faire la différence sur le long terme. Les interactions sociales au sein de l'établissement scolaire peuvent créer des normes implicites sur ce qui serait acceptable ou non pour chaque genre. Une fille mécanicienne, très souvent, ça ne passe pas. Mais en plus de cet entourage proche, c'est l'ensemble des codes sociaux qui va influencer nos choix. Les jeunes filles, par exemple, peuvent être moins exposées à des modèles féminins dans des domaines tels que les sciences et la technologie, ce qui peut affecter leur perception de ces filières. De même, les garçons peuvent être moins informés sur les opportunités dans des domaines traditionnellement féminins, comme l'éducation par exemple.
Tu voulais nous parler du contexte géographique aussi ?
Exactement, Loan. L'influence de la géographie sur les choix éducatifs est très importante. Une étude de la Fondation Jean Jaurès souligne que les écoles situées dans les zones plus favorisées ont deux fois plus de chances de proposer des classes préparatoires. Ces écarts géographiques soulignent la nécessité d'une réforme éducative plus profonde, visant à assurer un accès équitable aux opportunités académiques. Et enfin, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'information. Une enquête du ministère de l'Éducation révèle que 40% des élèves n'ont pas accès à une information suffisante sur les filières et les métiers. Alors quand on prend tous ces éléments en compte, effectivement, faire des choix d'orientation après le bac, bah c'est pas facile.
Merci Esteban pour ta chronique. Tu nous parlais du fait qu'il y a le plus souvent une reproduction du milieu social des enfants par rapport à leurs parents. L'école n'est donc toujours pas synonyme d'égalité des chances. Cependant, comme partout, il y a des exceptions, et j'avais envie d'aborder la thématique du transfuge de classe grâce ou à cause des études supérieures. Bien sûr, il est rare que les études supérieures entraînent une mobilité sociale descendante. Le plus souvent, elles conservent le milieu social ou alors elles permettent une ascension dans le meilleur des cas. Personnellement, mes parents n'ont pas fait d'études supérieures, et je me retrouve donc dans un milieu que je ne connais pas, et je compte poursuivre dans un master, ce qui me fera sûrement atteindre un bac plus 5. En tout cas, je fréquente un milieu universitaire auquel mes parents ne sont pas du tout familiers, et de ce fait, on n'a pas forcément les mêmes références à la maison qu'à la fac. C'est pas forcément facile de fréquenter un milieu dont on ne vient pas. En fait, en L1, j'ai dû faire comme une double intégration, à la fois car c'était une nouvelle école, mais aussi parce que les gens que je fréquentais ne venaient pas tout le temps du même milieu que moi. D'autant plus que je suis dans un établissement privé et catholique, et je pense pas que j'aurais ressenti le même écart si j'étais allée dans une fac publique. Même si nos milieux sociaux n'étaient pas foncièrement éloignés, la barrière matérielle s'est parfois ressentie, par exemple. J'ai remarqué que j'étais toujours en décalage, peu importe le milieu où j'étais. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à la fac, et j'ai parfois acquis des références que je ne pouvais pas forcément partager à ma famille, sans leur donner un contexte, par exemple. Inversement, à la fac, en fonction des personnes à qui je m'adresse, je vais volontairement changer mon langage, ou plutôt éviter certains mots ou expressions dont je sais que le sens ne va pas être saisi par la personne à laquelle je m'adresse. On le sait, la culture qui est légitimisée n'est pas la même dans tous les milieux. C'est comme être constamment en déséquilibre, devoir faire attention à ses actions, à ses dires, pour être le plus justement comprise. Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, que ce soit dans un milieu social ou dans l'autre. Car évidemment, si j'avais pas reçu l'éducation que j'ai connue, je suis convaincue que je serais pas la même personne. Et je pense même que j'aurais pas été autant engagée que je le suis. Inévitablement, les expériences de mes proches et nos échanges ont forgé ma façon de penser et m'ont ouvert. En fait, je considère même que ça peut être ma richesse, car je navigue dans plusieurs sphères et je peux décider ce que j'en tire ou non. Finalement, on jongle toujours entre le milieu duquel on vient et le nouvel environnement que l'on côtoie grâce à ses études. Pour ma part, je n'ai pas envie de faire des choix et je me concentre surtout sur le fait d'essayer de rester le plus fidèle à moi-même, tout en construisant au fur et à mesure mon identité. Ça nous parle, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Esteban pour la technique et ta chronique.
Merci Loan.
Et merci Insa pour ton interview.
Merci à toi, merci à Enzo.
Merci de m'avoir accueilli.
Ça nous parle, une émission à retrouver sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.